ce furent les singes que l'on eut le plus de mal à chasser. D'abord parce qu'ils étaient fort nombreux, ensuite parce qu'ils étaient difficilement saisissables. Les espèces étaient diverses, et chacune armée d'un fort contingent. Des gibbons, des chimpanzés, des patas ou singes pleureurs, des capucins bruns, des babouins amadrias, des saïmiri, des singes araignées. Si dans certains pays d'Asie, par exemple, voir des singes faire leur vie en pleine rue n'a rien de surprenant, à Santiago, la population en fut plutôt abasourdie, voire charmée dans un premier temps, puis franchement terrorisée au bout de quelques jours. Et l'on put rapidement s'apercevoir que les singes, eux non plus, n'étaient pas habitués à cohabiter avec des êtres humains, tant leurs comportements furent imprévisibles. C'est lorsque l'on commence à s'intéresser aux singes que le récit devient tout bonnement délirant, qu'il faut coûte que coûte abandonner tout esprit cartésien et s'en remettre à une forme d'étonnement plus primordial, sans quoi, autant aller sur le champ, se faire délibérément interner, ou mieux, autant entamer le repeuplement de la cage aux singes en commençant par soi-même. Car l'absurdité de ces quelques jours que les habitants de Santiago partagèrent avec les singes donne littéralement envie de se changer en singe hurleur. Passé d'abord inaperçu, parce que toute l'attention fut polarisée la première nuit par les kangourous, les singes ne furent découverts que le lendemain matin. Tout se passa comme si la ville ne se réveillait d'une immense gueule de bois collective que pour se resservir, dès le sortir du lit, un grand verre d'alcool bien plus fort. Les singes avaient envahi la ville, et ils étaient si nombreux que l'on se demanda un temps s'ils n'avaient pas fait venir, d'on ne sait où, des renforts, car personne ne pensait les cages d'un zoo capable d'en accueillir autant. Le fait est que, pendant 3 jours, qui parurent interminables, les singes firent tout ce qu'ils purent pour se rendre maîtres de la ville, ou peut-être que leur projet était moins ambitieux, de nature plus esthétique que politique, et qu'ils essayèrent, tout simplement, de désorganiser autant que possible le rapport des hommes à leur ville. On s'en doutait bien sûr, mais il fut vite confirmé que les singes, à des degrés divers selon leur race, sont des bêtes extrêmement farceuses. Ils avaient tout d'une armée de petits démons rieurs venus réenchanter le quotidien des santiaguiniens, et s'ils en exaspérèrent certains, s'ils harassèrent même les plus hostiles à la cause animale, on parle aujourd'hui de leur passage en ville comme de l'événement le plus joyeux qu'il fut donné de voir au Chili depuis probablement 1991 et la victoire du Colo-Colo en finale de la Copa Libertadores. Dès très tôt le matin, disons dès que le soleil fut assez haut pour que l'on puisse distinguer quoi que ce soit, l'on commença à voir aux alentours du Cerro San Cristobal et même dans tout le quartier de Baquedano des singes assis sur des branches d'arbres, les pieds dans le vide, en train de fumer des L&M et de boire au goulot quelque chose comme de l'Inca Cola. Ils imitaient les étudiants en uniforme du centre-ville, patientant sur des bancs avant les cours de 8 heures. Et si la plupart des singes n'étaient à ce moment pas encore déguisés, certains avaient, paraît-il, déjà chapardé des vêtements dans les étals du marché et se cachaient dans les feuillages pour choisir la tenue la plus saillante. Tant que les singes restèrent dans les arbres, on ne les considéra que comme une amusante extravagance qui serait sans doute réglée par la police dans la matinée. Seulement, il s'avéra très vite que les arbres n'étaient rien d'autre qu'une base arrière et que les singes étaient décidés à profiter des innombrables espaces de loisirs de la capitale. La suite à tout d'un très gros mensonge, un mensonge de la taille d'une ville. On raconte qu'affublés de couches et de bavoirs, des singes pleureurs se glissèrent dans les landaux dès que les mères eurent tourné le dos et l'enfant dans les bras, imitant si bien le cri de l'enfant que certaines crurent, avant d'y regarder de plus près, à une duplication miraculeuse. Des singes s'introduirent sous les sièges ou dans les coffres des voitures, voire, pour les plus petits d'entre eux, dans les boîtes à gants, déroulant des langues de belle-mère lorsqu'ils sentaient le conducteur sur le point de tirer la poignée. En regardant faire les enfants, d'autres apprirent à une vitesse inouïe à faire du tricycle, puis du vélo, et l'on vit même, mais cela semble impossible, un gibbon presque obèse, le crâne rasé sur les côtés, faire des pointes de vitesse en scooter en pleine rue, en plein milieu de la rue Bernardo O'Higgins, aussi appelée l'Alameda, autrement dit sur la plus longue et la plus fréquentée des avenues de Santiago. Occupant déjà une bonne partie des espaces publics du centre-ville, les singes ne mirent pas longtemps à répandre leurs facéties jusque chez les particuliers. On en découvrit, cachés dans les placards, sous les éviers, dans les poubelles, et les plus espiègles des pitres du meilleur goût, il faut l'avouer, allèrent jusqu'à enfiler des bonnets de nuit, puis à se glisser sous les draps, se faisant passer pour des épouses attendant le retour tardif de leur mari. La situation devenait tout bonnement clownesque. Les dîners mondains furent infestés de singes, ayant décoté, on ne sait où, des costumes beaucoup trop grands, et mimant les attitudes guindées de convives abasourdis et bien souvent incapables de réagir. Dès le matin de la deuxième journée, il fut clair que l'on ne se débarrasserait pas d'eux sans effort. Des babouins s'étaient introduits dans les salles de classe des universités, moquant silencieusement les attitudes des étudiants. Et l'on sait désormais que si beaucoup furent éjectés des bâtiments par les services de sécurité, d'autres gagnèrent rapidement l'affection de certains professeurs particulièrement libertaires. Non seulement ils les acceptèrent dans leur cour, mais ils les traitèrent comme des élèves ordinaires, interprétant leurs gestes, y voyant parfois de réponses brillantes, quoique mal formulées, à des questions auxquelles les étudiants humains répondaient peut-être de manière trop triviale. Et lorsque la direction fut prévenue, par quelques élèves jaloux des lubies de ses professeurs en bout de course, il fallut presque leur passer sur le corps pour déloger les singes, et quelques-uns donnèrent leur démission sur le champ. On les voit encore parfois traîner leurs faces d'illuminés à l'entrée des amphithéâtres, espérant faire signer d'absurdes pétitions concernant la fin des discriminations contre les singes à l'université.